La revue de la presse française. Bonjour Joanne Burgel.
Bonjour Nathalie.
À la une, la mobilisation en marche pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine.
Plus de 40 pays se sont réunis hier à Ramstein, base américaine en Allemagne, afin d'accentuer et de coordonner leur aide militaire à Kiev. L'objectif est en théorie aussi simple qu'il est complexe et dangereux à mettre en place, prévient Le Figaro. Fournir à l'Ukraine les armes et les renseignements nécessaires à ses troupes pour repousser les soldats russes. Alors que la guerre fait rage depuis 2 mois, cette mobilisation inédite a fait brusquement monter la pression, posant une nouvelle fois la délicate question de la co-belligérance et des limites à respecter entre soutien matériel et implication directe, analyse Le Figaro. Moscou ne s'y est pas trompé, accusant immédiatement l'OTAN de se livrer dans une guerre par procuration au fort potentiel d'escalade et de guerre totale. Le chef du Pentagone a promis hier de remuer ciel et terre pour aider l'Ukraine à gagner la guerre.
Une victoire de l'armée ukrainienne fait aujourd'hui figure de réelle hypothèse.
Oui, alors que la victoire était inimaginable au début du conflit, écrit Libération, pour contrer l'offensive russe dans le Donbass. L'Ukraine réclame de l'artillerie lourde et des blindés, des armes offensives que plusieurs nations, après avoir rechigné, assument désormais à lui fournir. Avec plus de 4 milliards de dollars d'aide depuis le début de la présidence Biden, les États-Unis restent de très loin le principal soutien de Kiev. La dernière tranche a ajouté près de 150 000 obus et 121 drones suicides aux véhicules blindés, hélicoptères et milliers de missiles anti-aériens ou anti-chars déjà fournis par Washington. Le principal revirement est venu hier d'Allemagne où, sous la pression de l'opinion publique, des pays d'Europe centrale, des industriels de l'armement, mais aussi des écologistes de son gouvernement, le chancelier Olaf Scholz a fini par céder à la livraison d'armes lourdes.
Pourtant, Berlin était fondamentalement opposé à la livraison d'artillerie lourde à l'Ukraine.
Mais l'Allemagne était très critiquée pour son inertie malgré la promesse faite fin février d'un changement d'époque. Face à ces accusations, rapporte le journal Les Échos, la ministre de la Défense allemande, Christine Lambrecht, martèle que les chiffres parlent une autre langue, aucun pays n'ayant jusqu'ici fourni, selon Berlin, d'armes lourdes. Au sein de la classe politique allemande, on s'inquiète de voir la guerre en Ukraine s'étendre au reste de l'Europe. Sentiment partagé par une partie de la population. Selon un sondage de l'Institut Forsa, 51% des Allemands sont pour la livraison d'armes. 38% estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour l'Ukraine, contre 34% qui pensent le contraire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Berlin pourrait bientôt arriver à se passer du pétrole russe. Il y a un mois, il représentait 25% de la consommation allemande. Aujourd'hui, c'est seulement un peu plus de 12%.
Sur le terrain, Joanne, 2 mois après le début de la guerre, l'État ukrainien s'est entièrement réorganisé.
Oui, l'envoyé spécial du journal La Croix nous raconte que le Parlement, les ministères et les grandes entreprises publiques se sont adaptés pour continuer à fonctionner. Le Parlement d'abord, composé de 450 députés, a un rôle essentiel. Son approbation est nécessaire pour une multitude de décisions. Depuis 2 mois, nous avons voté environ 250 textes, précise un parlementaire dans les colonnes de La Croix. Pour limiter le danger, une partie du travail se fait en commission à distance. Mais la procédure ne permet pas le vote à distance. Les députés se retrouvent donc de temps à autre dans l'hémicycle, à un horaire jamais annoncé à l'avance pour une courte séance où les votes s'enchaînent. Et puis autre exemple, la Poste ukrainienne qui emploie 60 000 salariés joue un rôle essentiel pour distribuer les pensions aux retraités puisqu'une partie de la population ukrainienne n'est pas bancarisée. L'entreprise publique a moins de lettres à transporter depuis le 24 février et le début de l'offensive russe. Mais son réseau sans équivalent est mis à contribution pour acheminer l'aide humanitaire jusque dans les endroits les plus reculés. Ces camions servent aussi pour relocaliser dans l'urgence les entreprises situées dans les territoires occupés qui se déplacent vers une zone plus sûre. C'est à lire dans le journal La Croix.